baroque et classique, dans la France du XVIIe siècle, Olivier Lestis et Philippe Frétinier.
Bonjour, vous êtes sur Radio Grand Ciel pour l'émission Baroque ou classique, l'art français au XVIIe. On a balayé énormément de sujets déjà depuis le début de cette série et nous sommes toujours avec Philippe Frétinier. Donc Philippe Frétinier, vous nous avez beaucoup parlé de peinture déjà, mais nous allons continuer aujourd'hui, notamment parce que si vous avez beaucoup évoqué le peintre Vouet, vous avez aussi cité, mais sans entrer dans les détails, des peintres très importants pour la peinture française au XVIIe, comme Champaigne ou évidemment Poussin.
Oui, alors il faut dire que Vouet a un rôle central parce que d'une certaine façon c'est le premier des grands peintres du XVIIe, que c'est le premier grand atelier à Paris. Il y a eu d'autres ateliers avant lui, notamment celui de l'Allemand, mais qui s'apparente plus à la fin 16e et tout début 17e, qui a été d'ailleurs l'atelier dans lequel Poussin est passé, sur lequel Poussin tiendra d'ailleurs des propos peu amènes quand il sera à Rome. Donc on peut dire que le premier grand peintre français, c'est Vouet, et donc il a un rôle charnière, c'est-à-dire la charnière, c'est-à-dire cardo en latin, autour de le pivot autour de duquel tout s'organise par la suite. Derrière, évidemment, il y a donc des figures très importantes comme celle de Philippe de Champaigne, comme celle de Lorrain, comme celle de Poussin, comme celle de Lebrun, avec des positionnements assez différents. Et ces grands peintres ne doivent pas faire oublier qu'il y a derrière eux d'autres grands peintres qui sont des peintres moins connus du public, qu'on pourrait tenter de qualifier de peintres de deuxième rang, mais qui ne sont pas des petits maîtres, parce que, excusez du peu, je tiens à les mentionner pour que les gens qui nous écoutent s'intéressent à eux, si jamais ils n'ont jamais entendu parler d'eux. Des peintres comme Stella, comme Sébastien Bourdon, comme plus tard Blanchard, je crois que je l'ai mentionné dans la dernière émission, en parlant du Titien français, je vais tâcher dans la deuxième partie de l'émission d'en parler, de dire pourquoi on l'appelait le Titien français. Donc il y a toute une... comme Le Sueur aussi, qui est un peintre, ou comme François Perrier, rien à voir avec l'acteur du même nom. Donc il y a toute une série de très grands peintres, Georges de la Tour évidemment, qu'on peut, malgré la spécificité de la Lorraine à l'époque, puisque chacun sait que la Lorraine devient française sous Louis XV, mais la Lorraine est quand même rattachée par bien des points de vue à la France, à la cour brillante de Charles III. Georges de la Tour va très rapidement avoir du succès à Paris. Excusez du peu, Georges de la Tour est quand même un des grands, grands peintres français du XVIIe. Assez curieusement d'ailleurs, il a été oublié pendant très longtemps. C'est à peu près la même histoire que celle de Vermeer. On a peine à croire comment cela a pu se passer, mais il faut savoir que Vermeer a été oublié pendant plus de deux siècles. Il y a ce magnifique passage dans Proust, la visite de Bergotte à l'exposition Vermeer, où d'ailleurs Bergotte meurt en fait, hein, où il s'extasie devant le fameux petit pan de mur jaune. Donc là on est dans les années 1910 à peu près, enfin 1910 oui, et il est arrivé la même chose à Georges de la Tour. Donc après avoir bien précisé ça, pourquoi je le fais, pour d'abord faire connaître des peintres dans la liste de ceux que j'ai cités qui ne sont pas si connus que ça. Je signale d'ailleurs au Chartrain qu'en ce moment, il y a une exposition, il faut se dépêcher parce qu'elle se termine le 16 décembre, mais une exposition Sébastien Bourdon au Grange de Port-Royal, lequel Bourdon était protestant, mais a accepté de peindre pour les catholiques, et notamment pour Port-Royal, en adoptant, en tant que protestant, l'iconologie catholique. Donc, voilà, faire connaître tous ces peintres qui sont pas des peintres de deuxième catégorie. Au passage, mais je vais y revenir, tous ces peintres-là sont de très grands dessinateurs. On a d'ailleurs eu une occasion de pouvoir le mesurer. Moi, je connais ça depuis longtemps, mais le public aurait pu s'en rendre compte lors de la dernière exposition Poussin qui a eu lieu au musée du Louvre, qui s'appelait Poussin et Dieu, qui était vraiment axé sur la peinture religieuse de Poussin. Et dans la partie, puisque c'est le sous-sol du Louvre maintenant est divisé en deux parties pour deux expositions en même temps. C'est comme ça que, par exemple, pendant l'exposition Vermeer, il y avait une exposition sur Valentin de Boulogne où il n'y avait personne. Il y aurait long à dire sur la passion du public pour la peinture. Et pendant l'exposition Poussin, l'autre partie était consacrée justement au dessin français au XVIIe. Et c'était une collection de dessins à tomber par terre de qualité. Tous ces peintres-là étaient la plupart du temps d'excellents dessinateurs, avec vraiment pas seulement une technique éblouissante, mais vraiment de très belles œuvres graphiques, d'une grande qualité esthétique.
Et ces peintres-là, on peut les voir dans certaines collections permanentes. Par exemple, au Louvre, il y a des collections très importantes sur la peinture du XVIIe.
Oui, justement.
C'est pas le seul endroit, sans doute, mais...
Justement. Alors, au Louvre, il y a vraiment une belle collection de peintures françaises du XVIIe, où on peut retrouver la plupart des noms que j'ai cités. Liste dans laquelle j'ai commis un oubli plus que coupable, puisque j'ai oublié les frères Lenain, qui sont des peintres de premier plan, pour le coup. Les trois frères, Mathieu, Louis et Antoine... J'y pense d'autant plus qu'ils sont dans la même salle que les 5 latours que le Louvre possède, puisque malheureusement le Louvre n'a que 5 latours. Il y a 11 tableaux de Lenain et 5 tableaux de Latour dans la même salle, excusez du peu. Et donc, avant de rentrer dans cette salle, lorsqu'on arrive des étages inférieurs sur la gauche, il y a une très grande salle dans laquelle il y a une grande série de peintures du Poussin. Alors pourquoi on a beaucoup de Poussins? Parce que notamment André Le Nôtre, qui était non seulement le jardinier artiste de talent que l'on connaît, il était aussi un passionné d'art et un grand collectionneur. Et il a laissé sa collection à sa mort à son meilleur ami qui était autre que Louis XIV. Donc c'est passé dans les collections royales, et des collections royales, c'est passé en grande partie dans les collections qui sont maintenant au Louvre. Et puis quand on rentre donc sur la droite et qu'on va dans la salle où il y a les Latour et les Lenain, où on est seul. Moi, à chaque fois que j'y suis allé, j'étais seul. Alors, comme je suis misanthrope, je suis content d'être seul. Mais l'amateur éclairé que je pense être... Et l'amoureux et le défenseur de la culture, par ailleurs, est complètement catastrophé de voir ces salles vides. C'est une honte absolue, c'est une faillite de l'enseignement et de l'éducation nationale. Donc, derrière ces salles, il y a notamment une salle où il y a justement des François Perrier, il y a des Le Sueur, enfin, il y a une très très belle collection de peintures françaises du XVIIe. On peut y aller sans craindre la foule, puisque malheureusement... Encore une fois, il n'y a vraiment pas grand monde. Et donc, ce sont des peintres qu'on peut voir facilement. Par contre, évidemment, les œuvres graphiques, ça c'est autre chose. puisque pour des questions de conservation, de fragilité des œuvres, elles ne peuvent faire l'objet que d'expositions temporaires.
Oui, elles sont trop fragiles.
Elles sont trop fragiles pour être exposées en permanence. Autrefois, c'est des folies qu'on faisait, et puis on a fini par se rendre compte, il y a déjà un bon moment, heureusement, que ces œuvres-là ne pouvaient pas être exposées de façon permanente. Alors, il y a aussi une très, très belle collection qui fait l'objet de temps en temps d'expositions temporaires. Il y a une très, très belle collection d'œuvres graphiques de Poussin au musée Condé à Chantilly, qui est, par la qualité, l'importance, la collection du duc d'Aumale, puisque c'est lui qui a constitué cette collection, d'une qualité qui la place comme pratiquement la deuxième collection derrière le Louvre. Alors il y a évidemment un inconvénient pour nous aujourd'hui, c'est la façon dont tout ça est exposé, puisque c'est vraiment la muséographie du 19e siècle, c'est-à-dire des murs pleins d'œuvres. C'était déjà comme ça d'ailleurs au 18e. Et le duc d'Aumale, dans ses dispositions testamentaires, a exigé que le musée reste tel qu'il était.
Oui, ce qui ne facilite pas le regard, parce qu'effectivement, donc, les murs sont très chargés.
L'institut qui a été le légataire, et ça c'est une très bonne chose, de la collection du duc d'Aumale, dans une attitude très respectueuse, a décidé de respecter cette disposition qui pourrait logiquement être cassée au bout de 10 ans après la mort. Mais il faut féliciter l'Institut pour sa fidélité à la mémoire du duc d'Aumale. Donc malheureusement, ce n'est pas les meilleures conditions pour un amateur d'art de 2018.
Oui, on est habitué, c'est vrai, à des présentations muséographiques où il y a de l'espace autour des œuvres, enfin, où on peut flâner, où on peut prendre le temps et puis pas être capté, pas avoir le regard capté.
Alors, vous allez me dire que j'ai peut-être mal répondu à votre lancement, mais je pense que c'était important de souligner l'environnement pictural très très important des peintres majeurs dont nous parlons. Et puis aussi, après tout, ça fait partie de mon idée, je ne vais pas dire de mission, parce que je ne suis pas halluciné ni habité, mais de partager avec nos auditeurs l'endroit où les collections se trouvent.
Oui, absolument, si, c'est important.
Et de les encourager à y aller.
Absolument, hein, absolument. Donc, oui, parce qu'on entend souvent parler des expositions temporaires, évidemment, parce qu'elles bénéficient d'un peu de publicité, mais c'est vrai que les collections permanentes, souvent, on ignore un peu en fait, ce qu'elles contiennent.
Alors, j'ajoute, toujours pour nos amis chartrains ou de la région chartraine, qu'il y a un musée qui a été rénové récemment, qui comprend une exceptionnelle collection de très très grande qualité de peinture française du 17e, c'est le musée d'Orléans. C'est une excellente, très très belle collection de peinture française du 17e.
Oui, mais c'est une visite pas très difficile à faire, effectivement.
C'est à 70 km d'ici. Donc, c'est une collection de premier plan.
Et qui, par exemple, quels sont les artistes qu'on peut y voir ?
Beaucoup, alors pas forcément des noms connus, mais l'un des plus connus qui a été popularisé parce que c'est finalement il était originaire d'Orléans, qui a été popularisé par le film Tous les matins du monde avec le fameux tableau qui représente des gaufrettes, c'est Lubin Bogin. Hein. On ne peut pas considérer Lubin Bogin comme un peintre qu'on appellerait d'habitude un peintre de deuxième ordre. Moi, je me souviens, il y a déjà pas mal d'années, il y a eu une exposition Bogin organisée par le musée d'Orléans. J'ai découvert, alors il n'a pas seulement fait des natures mortes, qui sont d'ailleurs assez extraordinaires, puisqu'il a réussi à glisser des sentiments dans ces natures mortes. Il y a des natures mortes qui sont d'une certaine mélancolie, ce qui est quand même un tour de force. Et je comprends fort bien qu'Alain Corneau, je ne sais pas si c'est lui qui a eu l'idée ou s'il était remarquablement conseillé ou peut-être un peu des deux, mais c'était très judicieux de mettre ça dans un film consacré à Sainte-Colombe. Ça résonnait très bien avec le très beau texte de Pascal Quignard qui sait de quoi il parle parce qu'il est musicien par ailleurs. Et donc, dans cette exposition-là, il y avait évidemment les fameuses natures mortes, mais il y avait de la peinture religieuse. Il y avait, comme beaucoup de peintres du XVIIe en ont fait, parce que c'est ça qui les faisait vivre. Hein. Et il y avait entre autres un Saint Jérôme que j'ai trouvé vraiment digne d'un peintre de premier plan, d'une pourtant, très très grande qualité.
Pourtant, il y a de quoi comparer pour le Saint Jérôme.
Ben oui, oui, le Saint Jérôme, il ben, y en a de la tour, justement, hein, par exemple. Le Saint Jérôme de Beaujain n'avait pas à rougir, c'est le cas de le dire, puisqu'il y a toujours du rouge dans un Saint Jérôme, évidemment, à cause du chapeau, à cause de l'habit, même si souvent il a le torse nu. Ça n'avait pas à rougir d'une comparaison avec Georges de la Tour, excusez du peu. Pour moi, il y a un grand siècle et une grande époque dans la peinture française.
Alors, on va faire une petite pause musicale pour reparler de ce grand siècle dans la peinture française, avec une pièce de Soler, jouée par Scott Ross.
Là, il s'agit d'une pièce de Padre Soler, puisque Antonio Soler était prêtre, et il a composé, c'était à la fois un théoricien et un compositeur, il a composé à peu près 80 sonates, et un fandango qui est assez célèbre maintenant, qui a été redécouvert seulement dans les années 60 par Raphaël Pouyanna. Et j'aime beaucoup cette musique parce qu'il y a toute l'Espagne qui rentre dans la pièce. C'est comme quand on entend une toccata de Frescobaldi, il y a toute l'Italie qui rentre dans la pièce. Et c'est une musique qui est très prenante, y compris corporellement. Et après tout, la musique, c'est charnel. Hein, c'est la respiration, c'est le corps. Et voilà. Donc j'aime beaucoup cette pièce.
êtes toujours sur Radio Grand Ciel, vous écoutez l'émission Baroque ou Classique, l'art français au XVIIe siècle. Pour rappel, ça devait être une série de 9 émissions, nous en sommes à au moins la 20e et ça n'est pas fini. Philippe Frétigny, je vous redonne la parole, vous nous parliez donc de ce grand siècle de la peinture française.
Enfin, en tout cas, dans l'histoire de la peinture, il y a deux périodes phares. Il y a un siècle qui est le grand siècle, et je cite Michelet, je veux parler du XVIIe. Alors ça, c'est tout le XVIIe siècle. Et puis, il y a une période qui commence aux alentours de 1850 avec Courbet, Delacroix, Manet, Lautrec.
Oui, ça fera partie d'une autre série d'émissions peut-être, mais restons-en au XVIIe siècle.
Non, mais c'est pour dire que c'est vraiment les deux grands moments, les deux grands moments de l'histoire de la peinture qui sont tous les deux, qui ont un point commun. C'est que d'un seul coup, il y a une quantité de personnalités qui arrivent et que justement, c'est une façon d'illustrer mon propos pour le XVIIe, on ne peut plus parler à proprement dire de courant parce que finalement, c'est tellement protéiforme qu'il faut parler de personnalité.
Oui, d'ailleurs, la période que vous citez, de la fin du 19e, début du 20e, sont aussi, comme vous l'aviez dit à propos du 17e, des moments de révolution scientifique, d'évolution extrêmement importante de toutes les pensées, au fond, exactement comme au 17e siècle.
Absolument. D'ailleurs, il y a un moment où il faudra parler d'un domaine qui est un peu ma spécialité. Sans doute qu'on en terminera par là, je ne sais pas, mais... Il faut parler de la philosophie au XVIIe. Hein. Donc, c'est d'ailleurs intéressant d'en parler parce que, par exemple, il y a un lien avec ce dont je voulais parler aujourd'hui, dont je ne parlerai pas, c'est Poussin.
On parlera la prochaine fois, voilà, c'est pas grave.
Parce que là, on va parler de Champagne maintenant, ouais. Mais Poussin était un ami de Gassendi, par exemple. Hein. Donc, voilà. Poussin étant celui qui a été le plus lié à des cercles lettrés, cultivés. Cette affreuse expression d'intellectuel n'existait pas à l'époque et c'était très bien. Donc, voilà. Alors, une des autres grandes figures majeures qu'on peut rapprocher plus de voix d'ailleurs que Poussin, même si il y a la fameuse... émulation jalousie que Louis XIII aurait essayé d'installer puisque on fait venir Vouet en pleine gloire à Rome, on le fait revenir à Paris en 1827 et en 1840 notamment sous l'influence des frères Fréard de Chambray dont j'ai déjà parlé qui sont les cousins de Sublet-Desnoyers, le surintendant des bâtiments de Richelieu, ont fait venir Poussin en 1640 à Paris. Et Louis XIII aurait dit « Voilà, vous est bien attrapé maintenant. » Néanmoins, Poussin fait... il va rester que 2 ans à Paris, il retournera très vite à Rome. Donc l'autre grande figure à Paris... plus que Poussin, qui est la grande figure, une des grandes figures tutélaires de la peinture au XVIIe, mais ça se passe à Rome pour lui. L'autre grande figure parisienne, c'est Philippe de Champaigne, évidemment.
Au nom presque prédestiné, parce qu'un nom qui se termine par peindre, enfin voilà, il y a quelque chose quand même.
Qui est un peintre flamand, mais qui vient à Paris, qui va... beaucoup plaire à Richelieu parce que c'est un peintre beaucoup plus austère que Vouet qui déploie à la fois une palette très large des mouvements par exemple dans ses retables. Champagne ne va pas peindre tant de retables que ça et puis surtout il va faire beaucoup de portraits par contre. Et donc c'est une mise en place assez rigoureuse, assez austère et le goût naturel de Richelieu le porte plus vers la peinture de Philippe de Champaigne que la peinture de Vouet. D'ailleurs, nous connaissons le fameux portrait de Richelieu par Philippe de Champaigne qui a, et ce n'est pas par hasard, un point commun avec le portrait de Charles Ier d'Angleterre, puisque sur la même toile, il y a trois portraits du même sujet, de face, de profil, et que Philippe de Champaigne va faire la même chose. Et c'est le portrait de Charles d'Angleterre, il a été peint par Van Dyck, qui est un Flamand. Donc il y a probablement, ceci explique probablement cela. Philippe de Champaigne va devenir le peintre quasi attitré de Port-Royal. On connaît tous, parce qu'on a au moins eu ça dans ses livres scolaires, le portrait d'Angélique Arnaud, la supérieure de Port-Royal.
Alors nous continuerons donc pour la prochaine émission à parler de Philippe de Champaigne. Vous nous reparlerez aussi de Poussin, et puis on aura encore certainement d'autres sujets, bien entendu. Je pense qu'on ne quittera pas la peinture tout de suite. En attendant, pour conclure cette émission, une pièce de Scarlatti que je vous laisse décrire.
Alors, c'est la sonate numéro 208. Alors, pourquoi j'ai choisi celle-là ? D'abord parce que quand on demandait à Scott Ross quelle était sa sonate préférée, ce qui est une question un peu oiseuse puisqu'il y en a 555, néanmoins, il acceptait de répondre. Il répondait que c'était celle-là, la 208. Et s'il y a une sonate, c'était d'ailleurs les arguments de Scott Ross, qui répond bien à la conclusion de la préface de Scarlatti dans les exercices publiés en 1738 à Londres, c'est Viva Felice.